18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Bienvenue à Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval, présentée par l'Association des étudiants et étudiantes inscrits aux études supérieures de l'Université Laval. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. Pour notre dernière de la saison d'automne, nous discutons des réalités des parents étudiants avec la présidente de l'association qui les représente à l'Université Laval, Jade Saint-Georges, et Franco Olajoyowa, qui est notre secrétaire aux droits étudiants. Bonjour et bienvenue à Question de savoir, vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Jade, est-ce qu'on peut parler un peu de l'association des parents étudiants? Quels sont les services que vous proposez à vos membres?
Oui, bien, l'association des parents étudiants, la PÉTUL, existe depuis 2006 maintenant. On fait une panoplie une belle brochette, en fait, d'activités ou de choses qu'on fait. On est autant dans le plaidoyer. Donc, il y a un livre blanc qui est sorti notamment en 2017 qui a contribué fortement, en fait, à donner naissance à la politique familiale à l'Université Laval. Donc, on a beaucoup d'outils de plaidoyer comme ça pour défendre les droits de nos membres, en fait, faire reconnaître, maintenant qu'on a la politique, la faire pousser un peu plus loin et la faire appliquer aussi. Sinon, on a aussi des activités de soutien pour nos membres et leurs enfants également. On a différents types de soutien. Là, on a des activités plus de solidarité sociale, donc des lunch-causeries ou des formations sur le midi, notamment sur la conciliation travail personnel. Mais on a aussi plusieurs de nos membres qui vivent en situation de précarité, par exemple. Donc, on fait aussi du référencement lorsqu'il y a besoin pour différents services, autant financiers, des fois même des banques alimentaires. On a plusieurs de nos membres aussi qui sont des étudiants internationaux, des étudiantes internationaux. Donc, tout l'accompagnement, on n'est pas des professionnels là-dedans, mais on est en pivot un petit peu pour référer également et accompagner nos nouveaux membres lorsqu'ils veulent s'installer, avec leurs enfants au Québec. Des fois, déconstruire des mythes aussi, notamment avec les services de garde, là, on pourra en reparler probablement un peu plus tard dans la rencontre, là, mais donc on fait tout ça aussi. On a des services de garde aussi maintenant, notamment avec les pénuries de garderies, on pourra en parler, là, mais on n'a pas une garderie à nous. Notre local n'est pas une garderie non plus. Donc ça, je prends le temps de le dire parce que des fois, il y en a qui pensent qu'on est bien équipé pour recevoir nos membres avec leurs enfants. On a aussi un frigo pour les mamans qui veulent allaiter puis conserver leur lait. Mais le service de garderie, en fait, c'est qu'on a des coupons pour du répit. Donc on a une gardienne qui peut aller à domicile s'occuper des enfants pendant une partie de la journée lorsque les parents ont besoin d'une pause là, pour étudier ou pendant les périodes d'examen, c'est vraiment apprécié. On s'implique aussi pour la halte garderie qu'on pourra en reparler, donc un projet qui me tient vraiment à cœur à l'Université Laval. Toutes sortes de choses. En fait, je pourrais continuer longtemps.
J'en profite pour mentionner, vous avez votre assemblée générale qui s'en vient très prochainement. Le 15 décembre.
Le 15 à midi, oui, venez. On a vraiment, vraiment besoin, en fait. C'est notre gros défi. Hein? On est une association, moi j'aime ça le dire comme ça, de personnes qui n'ont pas de temps. On a le nombre est vraiment notre force. Donc, plus on est dans le CA, mais pas que, hein, aussi des comités bénévoles pour différents sous-enjeux. Par exemple, pour la politique familiale, justement, on a un comité qui pense qu'est-ce que nos membres ont besoin, qui font des consultations avec nos membres, qu'est-ce qu'on a besoin. Et il y a une personne sur ce petit comité-là qui siège sur le comité institutionnel aussi. Donc, ça donne des belles opportunités également, même ne serait-ce que sur le CV, l'expérience de siéger, représenter toute... tous tes collègues, étudiants, parents, sur un comité institutionnel avec les hautes instances d'université. Donc, il y a toutes sortes de manières de s'impliquer, mais vraiment, les gens ont un peu peur, les parents étudiants, ils disent « Oh mon Dieu, j'ai déjà pas de temps », mais on s'arrange vraiment. Fait que venez à la GA, on a besoin de vous.
Donc, le message est passé. Justement, on en parlait, on va peut-être déconstruire certains mythes ensemble. Quelles sont les réalités qui sont vécues par les membres à l'Université Laval? Quels outils peuvent les aider? On parlait de la politique familiale de l'Université Laval. Est-ce qu'on peut en glisser un mot? Qu'est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que ça change chez un parent étudiant, par exemple, de se faire reconnaître comme tel à l'université?
Je vais répondre à la première partie de la question. on verra pour la suite, là, mais en termes de ce que nos membres ont besoin, c'est reconnaissance de tout le manque de temps qu'on a, comme j'en parlais tout à l'heure, là, la conciliation famille qui vient en premier, études, travail, n'est pas toujours facile. On a des membres aussi qui ont des situations particulières. On parle de d'étudiants internationaux, monoparentales, bref, il y a toutes sortes de situations aussi. Donc, le manque de temps, ce qui fait en sorte aussi que la politique avait cet élément-là intéressant. Donc, je pèse mes mots, là, d'être reconnue théoriquement étudiante à partir de 6 crédits, c'est apprendre avec beaucoup de bémols et de nuances cette phrase-là, finalement, parce que c'est pas reconnu partout. C'est vraiment dans des boîtes, si on veut, circonscrites de notre vie étudiante. Puis il n'y a pas toutes les facultés non plus qui peuvent l'appliquer. Moi, je prends mon exemple vraiment très personnel. Je suis étudiante au doctorat, au troisième cycle. Il n'y a pas de bloc. Il n'y a pas de bloc de 6 crédits, en fait. Donc, il n'y a pas moyen d'être inscrite à... Une fois que la scolarité est passée la première année, il n'y a pas moyen d'être inscrite à moins que 12 crédits, en fait. Donc, ça a fait aussi le message que je dois m'investir pour 12 crédits dans ma thèse à chaque session, même si la réalité fait en sorte que je n'ai pas le temps de le faire. Donc, je vais voir ce qui arrive à la fin quand j'aurai épuisé les blocs, mais je paye mes 12 crédits, même si je n'ai peut-être pas nécessairement le temps à dévouer à ces 12 crédits-là et que la politique ne pourrait peut-être faire autrement s'il y avait une intégration finalement dans les facultés de ces blocs-là. Donc, c'est un exemple. Il y a aussi le fait que pour travailler, il faut qu'on soit temps plein. Donc, il faut faire attention aussi. Ça ne s'applique pas nécessairement. On pourra en reparler. Je pense qu'à l'Allier, vous avez travaillé avec le STEF sur ces enjeux-là. Le statut aussi au plus nouveau gouvernemental pour nos collègues internationaux. Donc, le gouvernement ne reconnaît pas qu'on est étudiant à temps plein à 6 crédits. Donc, pour maintenir leur visa étudiant, ben, il faut quand même que nos collègues soient inscrits à temps plein, donc à 12 crédits finalement. 9 crédits, je dis 12, mais c'est 9. donc, voilà. Fait qu'il y a question de temps. Nos membres aussi beaucoup, ben, quand je parlais de précarité financière, donc tout l'accès aux bourses, c'est sûr, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Puis des fois, ben, on a moins de temps à donner à nos études que ceux et celles qui sont en d'autres situations. Donc, les notes, des fois aussi, en subissent le contre-coup. Donc, les bourses deviennent moins accessibles. Donc, si on pouvait avoir des bourses peut-être qui nous sont dédiées, c'est sûr que ça pourrait être facilitant pour certains, certaines pour qui ce n'est pas accessible. La conciliation, j'en parlais tout à l'heure, donc de reconnaître ça, mais aussi de faire du plaidoyer auprès des professeurs. Des fois, on a entendu toutes sortes d'histoires, c'est vraiment pas généralisé, mais c'est arrivé des histoires de parents, surtout de mamans là, qui devaient aller dans leur classe avec un poupon. Puis c'est pas toujours reçu de la même manière. Des fois, c'est très bien accueilli, des fois, c'est moins bien accueilli. Donc, la sensibilisation à faire à tous les niveaux de ce côté-là. Respect des droits, j'en ai parlé. Des installations avec les enfants, donc la garde. Là, c'est comme le gros morceau, puis je terminerai avec ça sur les besoins que nos membres ont. Je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité, surtout de ce temps-là, là, je ne sais pas quand est-ce que l'émission est diffusée ou si vous la réécoutez par la suite. Là, on est en suspens, savoir si l'entente va être signée ou pas. Là, les membres des services de garde subventionnés sont en train de voter. Mais ceux et celles qui étaient dans un CPE, c'est déjà subir la grève et le manque de place, mais de très peu de nos membres qui ont des places en CPE. Les services de garde non subventionnés sont très, très chers. On est une sous-couche, comme je disais, qui sont assez en précarité. Donc, l'accès à des services de garde qui sont de qualité, qui sont rassurants pour les parents, pour les enfants et qui sont accessibles financièrement, même géographiquement aussi, c'est vraiment tout qu'un enjeu. Ça peut nous apporter sur le projet d'Alta Garderie par la suite.
Franco, voulais-tu ajouter quelque chose sur les réalités que toi, du côté des droits étudiants, tu peux peut-être voir de ton côté?
Oui, Marie, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et je remercie la présidente pour avoir fait vraiment ce portrait en fait, des réalités en fait, des parents d'étudiants à l'Université Laval. Il faut dire qu'à mon niveau, en tant que secrétaire aux droits étudiants, comme l'a révélé tout à l'heure la présidente, il y a la préoccupation financière qui vient souvent et donc il y a vraiment une précarité financière en fait, qui s'observe au niveau des parents étudiants et donc pourquoi pas, comme elle a dit, penser dans quelle mesure on peut mettre en place une bourse particulière aux parents étudiants afin de les soulager parce que quand on est parent étudiant, il y a plus de tâches pour la mère et plus d'argent à aller chercher pour le père. Et donc, pour moi, en fait, on peut voir dans quelle mesure instaurer en fait une bourse particulière pour les parents étudiants de l'Université Laval. Ça serait intéressant parce que Laval a déjà fait le coup fort en étant la première université québécoise à mettre en place une politique pour les parents étudiants. Donc, on va toujours continuer le plaidoyer nécessaire pour que l'Université Laval puisse voir dans quelle mesure instaurer vraiment une bourse particulière en fait, pour les parents étudiants. Autre réalité, il faut dire qu'il y a en fait le fait que les parents étudiants qui m'ont contacté aimeraient en fait plus de souplesse dans les travaux parce que, vous savez, à l'Université Laval, il y a ce sont des examens continus et donc à un moment donné, en fait, vu les tâches différentes à la maison, parfois ils sont débordés. Donc quand ils me contactent, c'est pour que je puisse en fait prendre contact avec l'enseignant et voir dans quelle mesure on peut leur accommoder les ajustements en fait, nécessaires de la souplesse pour la remise de leurs travaux. Et donc voilà en fait l'autre réalité à laquelle on est vraiment confronté au niveau des parents étudiants. Et donc, en vrai, au niveau en fait, du droit étudiant, en fait, ce sont les deux réalités en fait, qui, vraiment, au cours du semestre, au cours de la session, que j'ai rencontrées. Et comme je le peux, on essaie, dans la mesure du possible, d'accompagner les étudiants parce que notre credo, c'est de les accompagner. Nous sommes là pour les accompagner. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier l'APTUDE pour le travail en fait, formidable que vous effectuez parce que, vraiment, je pense qu'on a moins de cas de... On a moins de plaintes de parents étudiants. Donc, cela veut dire que l'APTUDE fait vraiment un travail de fond, ce qui, en fait, allège plus ou moins en fait, le travail au niveau en fait, du droit étudiant. Et donc, je tiens vraiment à remercier l'APTUDE pour leur dire en fait, que vous avez tout mon soutien, vous avez le soutien de la Ligue et nous serons là toujours pour vous accompagner. Et j'invite vraiment tous les parents étudiants de l'Université Laval à se rapprocher de l'APTUDE ou à se rapprocher de nous pour des besoins particuliers, pour de l'accompagnement. Nous sommes là et nous allons toujours les accompagner.
Merci Franco. Puis je vais relancer le remerciement, en fait, parce que la reconnaissance est très touchante, mais elle va aussi pour l'Allié et la CADEL aussi, qui sont deux alliés à l'Université Laval que vraiment, on ne réussirait pas à faire autant avec vous. Donc, je relance aussi, on lance sortir des fleurs, mais c'est les travaux d'équipe, hein, tout ça. Vous avez plus de poids aussi que nous. On a quand même le statut d'association parascolaire. Donc, d'avoir des Goliaths qui nous aident, ça fait toute la différence. Donc, merci beaucoup.
Ça nous fait énormément plaisir. Puis, on va continuer d'être des partenaires à vos projets. On va se laisser en pause musicale quelques minutes, puis on vous revient à la question de savoir. On va continuer de parler des parents étudiants, puis aussi d'un projet qui nous tient à cœur à l'Allié, puis qui tient aussi à cœur à la Pétule, la future Halte Garderie. On repart en musique et on vous revient.
Dehors, Serge, dehors. Sur le temps, la neige qui fond, les arbres coulent. serre lave son gazon. Qui aurait cru que pendant que l'on était à l'intérieur, le reste autour allait ressortir de son congélateur. Et changer de couleur. Serge dehors, un saumon.
De retour à Question de savoir, Marie-Ève Duchesne avec Jade et Franco qui viennent respectivement de la Pétule et de l'Allier. Je voulais un peu voir de votre côté si la pandémie a accentué certaines problématiques des parents étudiants ou est-ce qu'elle a eu des avantages un peu inespérés pour vos membres? Pour faire un peu un retour sur qu'est-ce qui s'est passé depuis mars 2020. Votre côté, est-ce qu'il y a eu des avantages ou des inconvénients que vous avez notés avec la pandémie?
Oui, juste pour une question d'anecdote, moi je suis arrivée à la Pétule, je pense que c'était le 13 mars 2020. J'ai pas connu la Pétule avant pandémie. Donc, tout ce brouhaha-là me semble normal. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est sûr, ça a eu des répercussions. Mes collègues, en fait, c'est Jenaba Diaz qui était là, ma prédécesseuse, au moment où la pandémie a déclenché et était... je me souviens qu'elle a envoyé des messages à 11 h le soir pour vite faire des consultations auprès des membres, savoir c'est quoi les impacts. Parce que c'était le lockdown, on se replonge dans le temps, là. C'était du jour au lendemain, tout ferme, puis c'était très, très anxiogène pour les parents et pour les enfants aussi. Et pour les études, personne ne savait qu'est-ce qui allait arriver. Donc, la Pétule s'est mobilisée vraiment pour faire une consultation rapide. Ça a été sur un groupe messagerie Facebook pour être très accessible, pour savoir vraiment c'est quoi les besoins urgents. Et il y a une petite cellule qui a été créée tout de suite aussi qui parlait avec l'université, savoir qu'est-ce que l'université pouvait faire directement pour mettre en place des mesures qui soutiendraient justement dans l'immédiat, pour finir la session, en fait, le moins stressamment possible, en plus de tout le contexte qu'il y avait. Puis, une des mesures qui a été retenue, même appliquée à toute la communauté étudiante, c'était le fait d'avoir la mention « passé ou échec ». qui a beaucoup aidé justement de ne pas avoir ce stress-là, puis rester comme une fin, comme rester, je pense, 4 semaines quand ça a été déclenché. Donc ça, c'est une des idées qui venait notamment de nos membres, puis qui a été portée à l'université, puis qui a été appliquée à toute la communauté étudiante finalement. C'est sûr que la proximité qui en est venue avec les confinements, ça a été très particulier. On n'est pas... on parlait de précarité, mais ça nous fait partie de nos caractéristiques. Si on veut aussi, on est étudiants. Hein. Selon qu'est-ce que le conjoint à conjointe fait, ou même si on a un conjoint ou une conjointe, nos situations varient, mais reste qu'on est sur des salaires d'étudiants et d'étudiantes. Et donc, la plupart de nos membres vivent, comme moi, ici, en appartement. Moi, j'aime mieux parler de ma situation personnelle parce qu'on est tellement dans des multiples situations. Mais ce genre d'éléments-là, je ne suis pas la seule. Mon bureau est dans le salon. J'avais un bébé de 6 mois quand ça a commencé. C'était impossible pour moi de continuer de travailler sur ma thèse. Je me souviens, je sortais dehors, enfant en pleine crise de la séparation. C'était impossible de ne pas l'avoir dans les bras. Mais j'ai des collègues qui avaient des enfants d'âge scolaire, donc devoir gérer l'école en même temps. La plupart de nos membres vont vous dire que leurs travaux scolaires n'ont pas avancé pendant cette période-là, pendant les confinements. C'était extrêmement difficile. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs enjeux familiaux de stress qui montent également, de proximité. Il y a eu des cas de violence, comme on en a parlé aussi dans l'actualité. C'est sûr que notre sous-couche sociale n'a pas été épargnée de ces enjeux-là, si on se retrouve ailleurs. L'instabilité, le stress de savoir qu'est-ce qui allait arriver. Donc, bref, il y a eu beaucoup de répercussions. Mais si je finis sur une note plus positive, l'hybridité que ça l'a amené, puis que je pense qu'on n'est pas les seuls à pousser pour que ça demeure, a été quand même un plus. On parlait souvent avant, puis moi, je travaille en management, puis notamment la conciliation travail-vie personnelle, c'est des choses que j'étudie aussi dans le cadre de mes études. Puis le télétravail, c'est quelque chose sur quoi on parle depuis assez longtemps. Ce que la pandémie nous a montré, c'est que ce n'est pas la panacée. Hein. Ce n'est pas la solution miracle, puis il y a des contre-coups à ça. Par contre, d'avoir la flexibilité, j'imagine en tant que travailleuse, mais en tant qu'étudiant-étudiante du moins, de choisir si pour moi c'est plus facile de travailler à distance, de faire mes cours à distance ou d'aller sur place, ça a été un plus parce que pour certaines, ben, quand l'école a recommencé tranquillement, donc le confinement, ça s'est calmé, mais le fait de pouvoir être à la maison quand les enfants venaient dîner, ça a été, puis faire une pause en même temps que les enfants qui venaient dîner, ça a été dans les messages qu'on a reçus, ça a été un plus, qui n'était pas tant possible quand tout était sur le campus, puis c'était obligé d'être là, puis que le Zoom n'était pas très encore intégré pour les travaux d'équipe. Donc, l'hybridité, puis cette flexibilité-là, c'est un plus.
Je pense que la pandémie, en fait, ça a causé, je serais cru, je pense que ça a causé, en fait, beaucoup de ravages dans le rang des parents étudiants. Bon, on peut le dire dans l'ensemble du milieu, en fait, étudiantaire, tous les étudiants étaient, en fait, confrontés, en fait, à des situations particulières par rapport à la COVID, par rapport à la pandémie. Mais je pense que, en fait, les parents étudiants, en fait, en plus de conséquences, en fait, par rapport à cette pandémie-là. Je pense que j'ai été contacté par plusieurs parents étudiants, en fait, dans cette période-là. Et la réalité qui venait, c'était d'abord le stress. Il y avait beaucoup de stress dans le rang des parents étudiants, ce qui est normal parce que, en fait, la conciliation, en fait, famille, travail, études, ce n'est pas facile. Et cette pandémie nous a appris que, malheureusement, en fait, tout devrait reparti à zéro, tout a été mis à l'arrêt. Et donc, ça a causé un grand stress dans le rang des parents étudiants. Et l'autre chose qu'il faut aussi noter, et déjà, je viens de le dire, c'est le ralentissement nécessaire, le retard dans les travaux des parents étudiants. Et vraiment, je pense qu'en fait, dans ce sens, j'avais fait des plaidoyers vis-à-vis de certains professeurs et qui, en fait, ont compris la situation et ont permis à ces étudiants, en fait, de pouvoir déposer leur travail, en fait, en retard. Donc, on ne peut que remercier ces professeurs-là qui ont vraiment accompagné les parents étudiants, en fait, dans cette période de pandémie. L'autre chose, on a aussi, en fait, de la répercussion par rapport aux bourses du fonds. Il y a des parents étudiants, en fait, qui bénéficient, en fait, de cette bourse-là et qui, malgré, à cause de la pandémie, n'arrivaient pas, en fait, à répondre vraiment aux échéances, en fait, fixées par le fonds. Et donc, du coup, on a fait vraiment du plaidoyer dans ce sens-là. Et je tiens à remercier, en fait, ma collègue des études et de la recherche, Linda Maria Gou, avec qui j'ai mené ce combat. Et aujourd'hui, on peut avoir le sourire aux lèvres parce que le fonds a revu ses clauses. Et donc, on ne peut que dire merci au fonds. Et aussi, en fait, merci à toutes la communauté universitaire qui s'est investie dans ce combat-là. Et j'espère qu'on va toujours continuer le combat ensemble pour que les parents étudiants, en fait, puissent avoir vraiment de souplesse dans leurs études, de flexibilité à tous les niveaux possibles pour qu'en en fait, il n'y ait pas de difficultés particulières en fait, pendant leur cheminement universitaire. Et par rapport à ce qui est positif, comme l'a relevé en fait Diane, je pense que c'est l'hybridité qui vraiment a permis en fait à chacun de décider en fait si il doit rester en fait à l'extérieur, en fait derrière son ordinateur ou en fait venir en présentiel. Et donc cette hybridité vraiment ça a permis en fait c'est vraiment un point positif. Maintenant reste à savoir si en fait on va maintenir dans le temps, mais on pourra faire le plaidoyer avec l'aptitude dessus à l'endroit des résidences universitaires pour qu'on puisse maintenir cette hybridité là jusqu'à un moment donné afin de faciliter vraiment le cheminement universitaire des parents des étudiants.
Oui, effectivement, on va continuer de demander demander ça. Dernière question, on en a parlé, on en a glissé quelques mots. Quel sera l'impact pour vos membres d'une future halte garderie? Maintenant que le référendum à l'Allier est passé, quels seront les impacts pour les membres de la PETU, les parents étudiants d'une halte garderie à l'Université Laval?
Oui, bien pour nos membres, c'est sûr que c'est une excellente nouvelle. On est tellement heureux, ça fait tellement longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis je veux prendre le temps de remercier... Peut-être, elles ne nous écoutent sûrement pas, mais je veux quand même les remercier, toutes celles qui ont travaillé avant nous à faire ce plaidoyer-là aussi. Parce que le service de garde, c'est vraiment tout un problème. Pas pour que les parents étudiants, pour tous les parents, mais pour quand on n'a pas nécessairement les moyens d'aller dans le privé. Et aussi, le support familial. On a plusieurs de nos collègues qui sont parents étudiants internationaux. Donc, on n'a pas toujours leurs parents à eux et à elles qui sont prêts pour, et même des fois internationaux, mais aussi qui ont bougé à l'intérieur nationalement, qui ont une mobilité nationale. Bref, tu n'as pas toujours tes parents ou des frères et sœurs ou des personnes qui peuvent s'occuper de ton enfant pendant la journée de la famille. Donc, il y a très peu d'alternatives pour certains et certaines. Ça devient très, très compliqué. Je vais juste prendre le temps aussi parce qu'on s'est mobilisé sur notre page Facebook avec les autres parents du Québec en solidarité avec les éducatrices qui militaient, qui faisaient la grève dans les derniers jours, en fait, pour leurs collègues aussi des autres fonctions. Donc, c'est un élan de solidarité qui est vraiment exceptionnel. Mais c'est sûr que nous, c'est une très petite portion de nos membres qui bénéficient de ces merveilleux services-là. Et en attendant, c'est sûr que l'idéal serait que tout le monde ait une place à temps plein dans un CPE, en fait. Mais ça ne sera pas demain que ça va se résoudre. Il y a beaucoup d'étapes avant et c'est tout le monde. On parle de place pour 2024. On en parlait de 2022 il y a quelques années, mais ça ne sera pas le cas en 2022, même si ça semblait loin. Donc, ça nous prend quelque chose maintenant. Et l'halte garderie sur le campus, c'est vraiment une alternative qui se rapproche de l'idéal, qui se rapproche. Parce qu'on a un endroit où est-ce qu'on sait que notre enfant est en sécurité, où est-ce qu'il peut y retourner, parce que c'est bien d'avoir une halte garderie, mais laisser ton enfant à un endroit pour la première fois, c'est crève-cœur. Les parents qui ont laissé leurs enfants sous de garde, les premières journées, c'est très difficile. Donc, si au moins on a une récurrence, qu'on sait qu'à chaque fois qu'il va dans un service de garde, c'est au même endroit, que c'est accessible financièrement sur le campus, c'est le point pivot des parents étudiants. S'il y a quelque chose, l'enfant est malade ou n'importe quoi, on est déjà sur le campus, ça va. C'est rassurant de le savoir, notre enfant qui va être là. Puis ça fait une alternative aussi. Si on avait ouvert un autre service de garde qui serait un peu à tous les jours, bien, ça ferait quelques places de plus, quelques heureux, quelques heureuses de plus qui pourraient y bénéficier. Mais là, ça fait en sorte qu'il y a un peu grand nombre de personnes, justement, avec la rotation qu'il va avoir parmi les personnes qui vont en bénéficier à chaque journée, ça fait un plus grand bassin de personnes qui peuvent avoir une solution ponctuelle quand ils en ont besoin. Donc, vraiment, c'est un gros plus, oui.
Oui, je pense que par rapport à la garderie, je pense que c'est une excellente nouvelle et on va continuer le combat d'ailleurs dans ce sens-là pour que les parents étudiants puissent vraiment avoir cette garderie sur le campus universitaire. Et d'ailleurs, en fait, je pense que parmi en fait, les motifs qui avait conduit en fait l'Allier à mettre en place le référendum, il y avait en fait ce point crucial. Et donc, c'est pas ce canal que je dirais merci aux membres qui vraiment ont pu soutenir en fait ce référendum et nous avons eu en fait le point positif par rapport à ce référendum. Donc, on va pouvoir vraiment se pencher en fait sur la question et que en fait dans les années en fait suivantes mettre en place en fait cette acte-calderie. Et il faut se rappeler que c'est depuis 2015 que la Ligue en fait se penchait cette question de acte-calderie dans son mémoire sur la situation des parents étudiants à l'Université de Laval, donc sous le règne du président Nicolas Pouliot. Donc, du coup, je pense pour ma part que le combat va se continuer. Et comme je le disais tantôt, avec mes membres, avec les députés de l'ALNI, on va vraiment se pencher sur la question et voir dans quelle mesure, en fait, dans quelques années, mettre en place cette acte-calderie-là qui sera vraiment bénéfique pour les parents étudiants de notre campus universitaire.
Et on a vraiment hâte que ce projet-là prenne vie sur le campus. Je pense que ça va faire une grosse différence pour tout le monde. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à l'émission. C'est notre dernière de la session d'automne. On se retrouve en janvier pour une nouvelle saison. À noter, il reste des places pour notre retraite de rédaction du 14 janvier prochain. Si vous êtes en rédaction de votre mémoire ou de votre thèse, sachez qu'il sera possible de faire une retraite de rédaction en présentiel au Grand Salon. Tous les détails sont sur notre site Internet. L'équipe de l'Allier vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne écoute de CHIZ 94.3 FM.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.